Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Léonora, donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'ouvrir, d'élargir son regard sur soi. D'élargir son regard sur le monde à travers des rencontres, à travers des expériences de vie, à travers différents voyageurs. Donc j'aime bien donner la parole à des réalisateurs, des écrivains, des photographes, tous les gens qui ont une expérience avec le voyage intérieur, extérieur. Donc là, on va parler, on va prendre le temps de te rencontrer, Léonora. Donc je sais encore pas grand-chose de toi, si ce n'est que tu es photographe, mais pas que, tu as voyagé. Tu es née aussi d'une famille de voyageurs, puisque tu es d'origine allemande, née en France, qui a grandi en France. Donc je me rends compte, en t'écoutant, en off, que dès le départ, tu incarnes déjà le mouvement de par ton histoire familiale. Donc on va revenir peut-être d'abord là-dessus pour commencer. Parle-nous de toi, de ton enfance, et de qui tu es, et de la manière dont tu as grandi.
Bonjour, bonsoir, merci. Mais oui, en effet, moi je suis née en France, et justement pendant un déménagement, donc pendant une période de migration finalement de mes parents, mon père a découvert la France quand il était jeune, parce que mon grand-père était prisonnier de guerre et a été envoyé dans une ferme en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'était la meilleure partie de la guerre pour lui, évidemment, parce qu'il n'avait pas envie de se battre au front, et que là, il était dans une ferme où les gens ont bien pris soin de lui. Et du coup, il a fait découvrir à ses enfants la France. Et mon père, déjà gamin, 10 ans, quelque chose comme ça, s'est dit « Moi, je vais construire une cabane en France un jour. » Et du coup, mon père était un voyageur. Il est passé pas mal de temps au Maroc, un peu partout. Enfin, il traversait vers le sud, surtout. Il partait d'Allemagne en voiture, et donc traversait la France. Et du coup, a fait des petits repérages de terrain. Et assez vite, a acheté un bout de terrain en plein milieu de nulle part, dans les Pyrénées.
En quelle année, là, quand ton père achète ce bout de terrain dans les Pyrénées ?
Alors, quand c'est qu'il a dû acheter ça ? Je pense c'était quand nous, quand mes sœurs n'étaient probablement pas encore nées. Je ne sais pas exactement la date, mais je pense que c'était début des années 80.
Dans un endroit un peu coupé du monde, quand tu en parles.
Ah oui, à la base, vu que son projet, c'était de construire une cabane, c'était vraiment un bout de terrain qui a coûté que dalle, en plein milieu de nulle part. Où il n'y avait rien, un petit cours d'eau, et au début c'était une toute petite parcelle, et puis au fur et à mesure il a acheté d'autres parcelles autour, dont une avec une source, et puis il a commencé à construire sa cabane. Et puis il y a eu entre autres Tchernobyl et les annonces à la radio en Allemagne qui disaient qu'il ne fallait plus laisser sortir les enfants et tout ça, et mon père et ma mère, mes deux grandes sœurs étaient déjà là, et du coup ils avaient cette envie de bouger, et moi j'étais en cours plus ou moins. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont décidé de définitivement aller s'installer dans ce début de cabane qu'il avait construit dans cette vallée. Et ils sont descendus, ils ont tiré deux roulottes. Et du coup, moi, je suis arrivée là, dans une roulotte, un été.
Donc il y a un côté militant, finalement, dans ce choix. C'est presque un choix politique que de quitter l'Allemagne. Tu parles de Tchernobyl, donc on est en 86, hein, je crois.
En tout cas, oui. Et c'était aussi cette envie de sortir de cette routine travail. Enfin, il y avait un côté d'aller s'installer, d'aller vivre dans la nature, et de mener une vie plus proche de la nature, en fait, des éléments, de ce qui comptait, et pas du travail, de pas rentrer dans une routine. Ils étaient jeunes, et c'est vrai qu'ils ont été un peu baignés des années 60, du coup ils sont un peu de la génération juste après, mais ils ont eu ça dans leur enfance, en fait, et je pense que ça les a marqués, ces mouvements-là, en fait. Et notamment sur ce terrain, au début il y avait tout un village en ruine encore, et c'est plein de projets aussi de faire venir du monde, en fait, de monter un peu plus une sorte de communauté.
Est-ce que tu les as interrogés sur le pourquoi de venir en France et pas rester en Allemagne, parce qu'il y a, ils ont acheté un terrain ici. Mais l'Allemagne est grande et vaste, ils auraient aussi pu rester dans la partie allemande, non ?
Oui, après je pense qu'il y avait un côté Ils viennent, enfin, du coup, ma famille est originaire du sud de l'Allemagne, d'une zone assez riche, assez structurée. L'Allemagne est très un peu plus organisée, on va dire, surtout que le sud de la France. Et je pense que le côté, la liberté de pouvoir construire en plein milieu de nulle part, enfin, c'était peut-être plus abordable à cette époque en France. Et mon père, justement, je pense qu'il avait cette envie de partir aussi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, parce que moi je t'ai rencontré via, je crois, les réseaux sociaux, ou je sais plus trop comment, en tout cas de par la photographie. Donc on parlera après d'une partie de ta vie dans d'autres pays, notamment en Afrique, on va parler du Congo. Voilà, donc là tu dis qu'à 12 ans déjà tu te retrouves à voyager seul avec ton panneau autour du cou dans un avion Air France avec les stewards qui prennent soin de toi. Après, voilà, tu reviens et comment tu te construis, comment est-ce que tu trouves ton itinéraire, est-ce que tu sais que tu veux devenir voyageuse ou reporter ou photographe, enfin voilà, comment tout ça vient?
J'ai toujours su que, enfin, je voulais voyager, ça c'était sûr, je savais pas que j'allais faire de la photo, c'est venu un peu plus tard, mais du coup, j'ai fait, après le bac scientifique, j'ai fait une prépa en art, art appliqué. Et ça s'était pas super bien passé, en fait. Je crois que ça préparait aux grandes écoles et puis c'était trop formaté, ou l'art, le marché de l'art, en tout cas moi j'avais envie de créer, mais du coup je me retrouvais pas là-dedans. Et du coup je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois faire un échange après cette première année d'études. Et donc du coup ça c'était mon premier grand voyage à l'international, et c'est là-bas où j'ai commencé à faire énormément de photos. Et en rentrant de là, je me suis dit, je vais étudier la photographie pour pouvoir voyager, pour pouvoir documenter ce qui se passe un peu partout. Et je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui me plairait bien.
Ouais. Ok, donc tu as fait des études pour devenir photoreporter ou photojournaliste.
Oui, et après, le reportage m'a beaucoup intéressée. Et puis après, en troisième année photo, j'ai fait un stage avec un photographe qui avait notamment travaillé au Congo. Et puis j'ai vu un documentaire qui s'appelle War Photographer de James Nashway. Et du coup, je me suis dit, je veux être reporter de guerre. Donc c'était un peu parti de là, en fait, cette envie d'aller documenter, d'aller dans des zones de conflit, documenter les endroits, enfin non seulement bouger, mais surtout aller aux endroits où en fait on va pas forcément.
C'est vrai que ce documentaire de James Nachtwey, je l'ai vu aussi quand j'avais 20 ans. Donc un photographe de guerre, je crois que beaucoup d'images en noir et blanc, il me semble, si je me souviens bien, très poignantes. Et c'est vrai que c'est un métier qui est absolument incroyable, parce que là on va dans les zones de conflit, là où il y a l'urgence, c'est pas du développement, c'est vraiment de l'urgence. Et on photographie la vie et la mort. Et toi, tu étais attiré par ça, parce qu'il y a quand même quelque chose de dangereux. Je me suis interrogé aussi et j'ai eu peur d'être déçu de l'humain en allant photographier à ces zones-là.
La peur, enfin, j'ai été attirée. Je pense que j'avais aussi peut-être besoin de me lancer des défis, et que j'avais déjà voyagé la Nouvelle-Zélande et les paysages, tout ça. Enfin, c'était magnifique, et j'ai toujours eu envie d'en faire en plus. Mais je me disais, professionnellement, il faut faire quelque chose de. Il faut aller raconter des histoires que pas tout le monde va raconter. Je sais pas exactement si. Enfin, ce mélange entre le défi, mais en tout cas ça m'a attiré de raconter des histoires et des histoires de vie, en fait. Je voulais pas devenir forcément photojournaliste de guerre et juste raconter le conflit en lui-même. Je voulais chercher la vie, en fait, dans des zones où on a tendance à, quand on entend parler de la guerre ça fait peur, et on a tendance à s'imaginer la mort, en fait. En tout cas, jeune, j'avais cette, et du coup je voulais voir, je voulais un peu casser cette image là et aller chercher la vie à un endroit où on s'imagine la mort.
Et donc dans tes études, dans ton parcours, tu as donc fait la rencontre d'un photographe qui t'a emmené sur le terrain au Congo, c'est ça?
Non, lui là, j'ai bossé avec lui, et lui il venait de gagner un World Press sur une photo au Congo. Il sortait un livre sur le Congo et un peu qui tourne. Enfin, le livre s'appelle Congo in Limbo et le photographe s'appelle Cédric Gerbé. Et il a documenté plein de choses, mais entre autres aussi le conflit à l'Est, les rebelles, Et un peu toutes ces situations conflictuelles et la misère qui va avec. Et du coup, il avait une grosse exposition à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du Congo. J'ai fait mes études à Bruxelles, donc le Congo, c'est une ancienne colonie belge. Et du coup, il y avait cette grande exposition, ce livre qui sortait. Et donc, j'ai appris plein de choses sur le Congo. Et ça m'a marqué en fait, cette expérience, ce stage m'a énormément marqué. Et j'ai découvert, enfin, je me suis dit, là, il y a des histoires. Enfin, c'est un autre type de photographie, mais c'est là où j'ai trouvé un peu la photographie que j'avais envie de faire, celle qui racontait justement des histoires, des témoignages de vie en fait, mais dans des zones difficiles, on va dire.
Donc, quand tu termines tes études de photojournalisme, là, il faut maintenant commencer à bosser. Donc il faut produire des sujets ou alors être embauché par la presse. Comment toi tu fais pour trouver ta place dans cet univers très élitiste finalement ? Beaucoup de gens veulent devenir photographe ou reporter et finalement peut y arriver. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai.
Ouais, et en effet, ça c'était un peu, je savais pas. Du coup, j'étais un peu perdue et je me suis dit avant tout, il faut se faire des expériences, et les expériences, avant de pouvoir partir sur un théâtre, un pays compliqué, ben, il va falloir les faire là, en fait, là où j'ai l'occasion, en bas de chez moi, à côté. Du coup, j'ai commencé à faire mon premier sujet de reportage au long cours parce que j'avais envie de faire du reportage du long cours, pas juste une couverture spontanée d'un événement, mais vraiment essayer de raconter ce qui se passait quelque part. Et ce qui m'attirait beaucoup, c'était l'univers du cirque, le monde alternatif aussi. Et du coup, à Bruxelles, à cette époque-là, d'ailleurs, il y a toujours, il y avait des jongleurs au carrefour. À différents endroits, il y avait des jongleurs. Quand le feu passait au rouge, ils faisaient leur petit spectacle et puis ils récoltaient quelques pièces comme ça. Et moi, je me suis dit, je veux découvrir ces gens-là, je veux découvrir l'univers qu'il y a derrière. Et du coup, j'ai commencé à documenter. Je suis allée un jour avec mon petit vélo à ce carrefour et j'ai commencé à leur parler. Et une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Hicham. Et qui venait du Maroc, qui venait de débarquer en Belgique après avoir tenté, enfin après tout un parcours du Maroc jusqu'en Europe. Et lui, il a tout de suite été super généreux, super ouvert en disant oui, il y a pas de souci, tu peux photographier. En fait, ils ont tous dit que je pouvais photographier, mais Hicham m'a vraiment ouvert les portes de sa vie. Il m'a dit oui, je suis en train d'ouvrir un squat. Et du coup, il était juste en train d'ouvrir un squat qui est devenu un endroit où les jongleurs se retrouvaient. Ils ont appelé ça l'ambassade des jongleurs. Et du coup, je l'ai accompagné dans son quotidien à photographier ce qui se passait pendant presque un an et demi en fait. Et ça, c'était ma première expérience de reportage un peu de long cours. Et à côté de ça, comme je ne savais absolument pas comment gagner de la thune avec ces histoires-là, je travaillais dans un restaurant. Forcément, il fallait bien gagner un peu de thune. Et du coup, j'ai fait ça. Et puis, le resto m'a permis je suis partie en Inde, où j'ai essayé de faire un peu des reportages et des choses, mais je ne savais toujours pas vraiment bien comment m'y prendre et surtout pas trop comment présenter et vendre ça, sachant que les études de photographie que j'ai faites, c'était une école assez technique qui formait plus à la publicité, à la mode. Enfin, il y avait tout un aspect technique de prise de vue aussi, encore de l'argentique et du labo, mais il n'y avait pas vraiment d'axe photojournalistique, et on n'apprenait pas non plus à écrire des synopsis, à aller pitcher des sujets à la presse ou à faire ce genre de démarches. Et en parallèle, j'ai découvert des festivals photo comme Visa pour l'image et d'autres événements, et je me suis inscrite à des lectures de folios et j'ai commencé à montrer mes petites photos d'Hicham en fait, petite histoire. Et ça, cette histoire-là, ces photos-là, ça a pas mal plu. Et là, j'ai envoyé ça à ce concours, donc quelques photos que j'avais sélectionnées d'Hicham, de trois séquences vidéo et puis des interviews. Et j'étais sélectionnée pour cet atelier de création de petites œuvres multimédia au Festival MAP à Toulouse, où ça a été projeté. Et du coup, là, on a je pense que c'était sur 4 jours, quelque chose comme ça, accompagné d'une équipe avec un ingé son, avec plusieurs personnes qui nous aidaient aussi à faire la narration et l'aspect montage. J'ai monté ma première petite œuvre multimédia sur ce jongleur. Du coup, et là, c'est un peu le début de d'une démarche un tout petit peu plus professionnelle en fait. De par là, je suis rentrée j'ai rencontré surtout plein de gens qui étaient dans la même démarche que moi et qui eux avaient fait des écoles peut-être plus orientés vers ça, notamment l'EMI CFD à Paris, en photojournalisme. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un stage en France. J'ai vraiment envie de faire un stage à l'international, de quelque chose où je vais directement produire des images et dans un, enfin, ouais, dans un autre pays. Et,
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que tu peux me parler de ce qui se passe en toi, hein, peut-être de manière plus personnelle ou émotionnelle, parce que là, tu es jeune, tu as 26 ans, tu te retrouves au Congo, l'Afrique noire, donc tu parlais du Maroc, mais c'est pas la même Afrique du tout, dans une situation de crise, hein, un des pays où politiquement, économiquement, très compliqué. Tu te retrouves à faire de l'humanitaire dans une région en crise, à 26 ans, en tant que femme. Est-ce que c'est quelque chose de facile à porter ?
C'était, enfin, je pense que j'avais envie d'y aller, j'avais besoin d'y aller. C'était un moment où j'avais besoin de faire quelque chose, de faire quelque chose de peut-être compliqué, quelque chose qui correspondait à un rêve, à quelque chose que je m'étais... Enfin voilà, quand après ce documentaire de James Nashway, je m'étais dit, je veux faire quelque chose comme ça, je vais aller témoigner. Et là... Ben, je me suis retrouvée en fait dans un contexte comme ça et justement les choses, cette première commande, c'est venu tout seul à moi en fait et puis je me retrouve sur le terrain et je me retrouve face à ces réfugiés, je me retrouve pour la première fois dans un camp de réfugiés avec des gens qui des jeunes, des gens qui ont mon âge et qui commencent à m'expliquer ce que c'est que d'être réfugié en fait, ce que c'est que d'avoir quitté son pays, d'avoir quitté ses études ou sa profession, tout ce qu'on a lancé. Et je me souviens, c'était beaucoup de choses et tout d'un coup, je me suis mis à douter aussi, à me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je peux apporter à ces gens-là, en fait, du fait de me retrouver et à me demander est-ce que vraiment mes photos, est-ce que vraiment mon témoignage, est-ce que ces gens-là qui ont tout perdu en fait au final, je pensais que ça pouvait servir à quelque chose, et là j'ai eu une vague de doute en me disant que ces gens-là, même certains dans les hôpitaux aussi, enfin très vite on me dit ok, même si mes images servent, ça va prendre tellement de temps, c'est pas eux que ça va aider en fait, c'est pas ces gens que je vois qui vont, c'est peut-être les crises qui vont être financées ou autres, mais ça me paraissait tout d'un coup assez absurde. Et d'un autre côté, j'avais cette espèce de besoin de vivre ça et de faire mon travail, de raconter leur histoire et d'essayer de le raconter, mais j'avais envie de le raconter à tout le monde en fait, parce que oui, on voit ça par les infos, par des films, des choses, mais après c'est très 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 différent quand pour la première fois on se retrouve confronté à des gens en face qui te parlent et qui te disent j'ai tout perdu en fait, et je sais pas quoi faire. Et je suis là dans un camp, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on n'a pas le droit de sortir. Et je ne sais pas quoi faire, en fait.
Est-ce que tu as réussi à trouver du sens, quand même, à être là ? Est-ce que, voilà, comment tu as fait ? Où est-ce que le sens est venu ?
Alors, le sens, ouais, c'est... Enfin, je pense qu'il y a des moments de doute où c'est une question qui m'est revenue très souvent. Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que ça... Et en même temps, il y a des moments où c'est évident, en fait, aussi. Et... enfin, il y a des moments où on ramène son travail, ou quand les gens voient les images et viennent te dire ok, je savais pas en fait, merci, tu m'as montré quelque chose. Et surtout en fait, je pense que j'ai eu la chance de faire quelques expositions et c'est sur ce moment là où en fait il y a des échanges directs avec des gens où du coup il y a un instinct un peu privilégié où on se rend compte que si en fait peut-être peu de gens, mais qu'il y a des gens qui sont touchés en fait, et il y a des gens qui savaient pas et qui sont contents de savoir et qui sont contents d'avoir ce témoignage différent et pris, pas forcément justement les news ou quelque chose qui passe très vite où on bazarde une info après l'autre et où on n'a pas le temps de rentrer dans les détails et vraiment de se poser les questions de comment vont les gens, mais on se dit juste ah, il y a une crise quelque part et ça va mal, mais alors que sur certains événements, et notamment les moments où j'ai la chance de présenter mon travail, que ce soit sur des présentations lors de festivals ou de rencontres ou sur des expositions, ben là on se rend compte que si en fait il y a des gens en face qui sont touchés et que ça fait sens, même si c'est peu de gens. Et que c'est important de les raconter, et aussi par rapport aux gens en fait. Ce que j'étais assez surprise aussi, c'est de voir que dans plein de zones, les gens, ils ont envie de témoigner. Parfois c'est dur aussi parce qu'on se dit que ils mettent peut-être un espoir que j'arriverai pas à remplir, mais il y a plein de gens qui ont envie que leur histoire dure soit racontée, en fait.
Et c'est aussi une manière de donner de l'attention aux gens, de leur montrer que leur problématique est réelle. Et d'ailleurs, on s'y intéresse, parce que souvent, on a l'impression d'être dans l'ignorance, en fait. C'est quelque chose de très difficile. Et là, on donne notre attention à une population, à une problématique.
Oui, et ne serait-ce que... Enfin, moi, j'essaye d'écouter les gens aussi. C'est même un moment, en fait. Il y a la thématique, mais il y a aussi juste l'échange et ce qui se passe entre une personne et d'avoir une écoute, en fait. Et ça, c'est peut-être pas... Enfin, professionnellement, je pense... Enfin, c'est humainement, en fait, où c'est important. Pour moi, en tout cas, ça l'a toujours été...
Donc, à 26 ans, tu te retrouves au Congo, tu deviens photo-reporter. Et après ?
Mais après, le Congo et les rencontres que j'ai faites et les opportunités professionnelles que j'ai trouvées là-bas, j'ai eu envie d'y retourner, en fait. Après mes 2 mois de stage, je me souviens plus exactement combien de temps après, mais je me suis dit, il faut que j'y retourne. En tout cas, c'était sûr. Et j'ai commencé justement à ce moment-là, du coup, en rentrant en France, à aller voir les ONG, notamment Médecins Sans Frontières. Et parce que j'ai commencé à travailler à l'est du Congo sur des problématiques liées à l'accouchement, aux filles mères, aux violences sexuelles. Et du coup, j'avais envie de développer ce projet-là, en fait. Et j'avais besoin d'accès, parce que justement, le Congo, c'est un pays où, en termes d'infrastructures, de déplacements, c'est quand même relativement complexe. Et qu'en tant que... c'est pas touristique, donc en tant que blanc, on peut pas aller partout comme ça tout seul. Il faut avoir des gens qui facilitent les accès, notamment dans des zones un peu de conflit où il y a des présences de rebelles. Et du coup, Médecins Sans Frontières, eux, ils sont pas mal implantés. Et justement, ils travaillent sur ces thématiques-là, que ce soit la naissance ou les violences sexuelles. Donc je suis allée les voir à Paris. Et je suis allée voir toutes les rédactions à Paris. Je leur ai montré mes photos du Congo. Bon, j'étais très jeune photographe et les rédactions, c'est relativement compliqué de publier dans la presse. Et mes histoires n'étaient pas non plus encore super construites. Mais j'ai eu des retours très positifs et des encouragements à retourner en envoyant évidemment mon contact avant d'aller sur le terrain. Comme ça, s'il y avait une actualité, ils disaient on pourrait te mettre éventuellement en commande, et aussi à pitcher mes sujets, à leur proposer d'autres images et à continuer à les développer, en fait, même si au final je me suis rendu compte que que le Congo, c'est extrêmement compliqué de vendre un sujet sur le Congo parce que on en parle très peu, et quand on en parle souvent que sous le prisme du conflit, donc ça restait compliqué. Mais en tout cas, c'est là où je suis rentrée aussi un peu plus dans une démarche professionnelle sur ça.
Donc là, t'es freelance alors à ce moment-là. C'est vraiment à toi de créer tes sujets, de les construire, de les écrire, et après de trouver une rédaction ou une agence qui va bien distribuer ton sujet.
C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai eu plus de succès. Et les ONG, en fait, m'ont non seulement accordé des accès, mais du coup, m'ont dit, mais en fait, ton travail, ça nous intéresse. Et du coup, par exemple, Médecins Sans Frontières, j'étais en commande pour eux, en fait, quand j'y suis retournée. Je suis allée dans ces endroits, dans ces hôpitaux. J'ai pu faire des sujets, des images pour moi. Mais j'ai couvert leurs activités à différents endroits. Financièrement, je payais mes voyages au Congo avec ces commandes humanitaires que je faisais sur place, et je développais mes histoires perso que j'ai pas réussi à vendre à la presse, mais que j'ai réussi à exposer. Et enfin, j'ai notamment cette série que j'ai fait sur les filles mères, j'ai gagné plusieurs prix avec. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'exposer au Canada sur un festival photo. Enfin, ça a pas mal, et ça m'a permis après justement de présenter un autre concours qui s'appelle le Prix Mentor, où j'ai présenté cette série-là.
Tu peux me parler de cette série-là, des filles-mères, parce qu'on en a pas parlé.
Ah oui, du coup, c'était issu de ce premier voyage, et après je suis retournée justement pendant mon stage, en fait. J'avais très envie aussi de découvrir. J'étais à Kinshasa, et du coup j'avais envie d'aller à l'est. À Goma, en fait, c'est un peu justement l'épicentre de c'est là où, la zone rebelle, on va dire, où il y a pas mal de conflits. Il y en a à beaucoup d'endroits, malheureusement, mais l'Est est un peu cette image-là. Et notamment, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que les Nations Unies soutenaient le travail des journalistes. Et donc, j'ai pu prendre un avion des Nations Unies pour me rendre à Goma. et commencer à documenter des différentes activités des Nations Unies, mais aussi un sujet sur l'éphémère, parce que c'est des adolescentes, et souvent à cause d'une histoire de viol, notamment des viols des groupes rebelles, se retrouvent mères à 14-15 ans. Et comme il y a aussi une question de dot encore au Congo, du fait d'avoir eu un enfant hors mariage très jeune, elles sont rejetées par leur famille et se retrouvent du coup dans des centres d'accueil pour celles qui ont la chance de trouver une structure comme ça. Et donc j'ai documenté la vie de ces filles.
C'est des sujets qui sont très lourds quand même, quand on est une jeune fille européenne, qu'on a 26 ou 27 ans, qu'on se retrouve en Afrique et qu'on est confronté à cette réalité-là. On voit plus les choses de la même manière quand on rentre en France.
Ça c'est les retours sont toujours compliqués en fait, je pense. Enfin, les retours de voyage où qu'on aille, c'est toujours spécial, et je pense que quand on rentre de ce genre de zone, c'est d'autant plus compliqué qu'on n'a pas forcément, c'est pas facile d'en parler à tout le monde parce que les thématiques sont dures et que. Mais en même temps, ça faisait sens pour moi. J'avais besoin d'aller découvrir ces choses. J'avais envie de raconter leur histoire. J'avais quelque chose à aller chercher.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir.
Je crois qu'aujourd'hui on est plein à chercher du sens dans nos vies, à savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire. On vit dans un monde complexe et souvent on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et l'idée c'est vraiment de trouver un métier en accord avec qui on est réellement. Il y a, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Satish Kumar qui disait arrêtez de trouver un métier pour entrer dans une case, mais essayez de créer votre case par vous-même. En même temps, le monde change, on change, nos envies changent, et le métier de photoreporter, la profession change aussi beaucoup. Souvent quand on parle aux collègues, il y avait un âge d'or, de l'époque de l'argentique, où la presse payait cher des reportages. Aujourd'hui, tout le monde fait des images dans le monde entier, on n'a jamais produit autant d'images que là maintenant, au moment où on est en train de se parler. Et je crois que c'est vraiment une profession de plus en plus compliquée, donc ça a fait rêver d'être photographe, et aujourd'hui c'est une question qu'on me pose et j'ai envie de te la poser aussi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui vient te voir et qui dit « Ouais, Léonora, extraordinaire, moi aussi j'aimerais pouvoir être photoreporter ».
Mais que c'est magnifique, et que si on a le courage et l'envie, il faut essayer en tout cas, mais qu'en vivre c'est compliqué, et que comme je pense dans beaucoup de profession un peu comme ça de cœur, la réalité, enfin l'aspect profession et ce qu'on s'imagine de la photo sont très différents en fait, et que la grande partie pour en vivre, enfin du reportage, de tout ça, il y a aussi il faut savoir se vendre en fait, il faut savoir vendre, il y a un côté commercial en fait, et que si on veut être si ce qui compte vraiment, comme ça l'a été pour moi, c'est l'aspect témoignage, économiquement c'est compliqué en fait. C'est pas facile en fait, et ça je dirais aux gens, enfin je regrette absolument pas d'avoir fait tout ça, parce que ça m'a amené à des endroits incroyables, et que sans ça j'aurais jamais eu de raison d'aller pousser pour me retrouver à des endroits, notamment en plein milieu du parc national de la Salonga, au centre du Congo. C'est une forêt tropicale, forêt presque primaire, qui est le plus gros parc forestier d'Afrique, en fait. Et j'ai fait un documentaire pour lequel j'ai eu une bourse. J'ai eu la chance d'avoir une bourse, en fait, du coup, de pouvoir rédiger mon projet à ma manière et de pouvoir le réaliser grâce à ce financement. Et du coup, à me retrouver au centre du Congo, dans cette forêt où peu de gens vont en fait, et ça c'était un rêve en fait à moi aussi d'aller dans la jungle en fait, et j'ai pu, grâce à la photo, grâce à cette envie de faire du reportage, me retrouver à cet endroit là en fait. Donc voilà, si les gens ont envie de remplir des rêves, la photo donne cette opportunité là après, économiquement, moi j'ai jamais trouvé mon moyen d'en vivre. Cette bourse m'a donné l'opportunité de le faire. J'ai dépensé tout l'argent de la bourse pour réaliser ce projet là et j'en ai pas gagné après, donc voilà, mais je le referai absolument, Mais économiquement, au bout d'un moment, notamment après ce gros projet-là, je me suis posée, j'avais 30 ans, et là je me suis dit, ok, bon, ça fait 5 ans que je suis sérieusement en train d'essayer de faire ces choses-là, ça fait 5 ans que je fais des belles rencontres et que je vis plein de belles choses, je paye mon loyer, donc c'est pas que j'étais en train de... Mais que j'avais pas mis un bal de côté, que je bossais, enfin, que je partais jamais en vacances parce que je faisais mes reportages, que toute ma vie tournait autour de ça, et que quelque part, je me disais, bon, il y a quand même un truc qui va pas, parce que normalement, bon, ben, le travail, enfin, normalement, on a une certaine évolution ou quelque chose, et je voyais toujours pas exactement comment ça pouvait vraiment évoluer, en fait, et je pense que j'étais encore relativement, enfin, jeune quand même, et que peut-être j'aurais persévérer un peu plus longtemps, j'aurais peut-être trouvé le truc. J'ai des amis qui l'ont trouvé, mais j'ai d'autres amis qui ont arrêté aussi dans la photo et qui se sont un peu plus reconvertis à autre chose. Et je me rends compte aussi que ceux qui arrivent à plus en vivre, c'est aussi ceux qui, ben justement, gèrent mieux, on va dire, l'aspect relationnel et commercial. Parce que si on n'est que sur le terrain en train de vouloir produire ces images sans faire tout ce travail d'email, de contact et de choses, eh ben on a beau faire les plus belles séries du monde, si on ne les présente pas et si on n'est pas derrière pour qu'elles soient publiées, en fait, elles vont rester sur nos disques durs.
Léonora, je vais peut-être terminer par cette question-là. Donc, tu as un parcours de vie qui t'a amené à voyager pas mal, hein, notamment au Congo, à vivre des expériences fortes. Le photojournalisme était pour toi un moyen de faire ces rencontres, de travailler sur des sujets poignants. Là, je te rencontre aujourd'hui en France. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager ? Qu'est-ce que le voyage ou qu'est-ce que cette expérience professionnelle et journalistique t'a apporté dans ta vie d'aujourd'hui ? Peut-être le regard que tu portes sur toi aujourd'hui, force de cette expérience de l'international et de ce métier de photoreporter.
C'est pas évident, mais ça m'a... Mais je pense que ça m'a construit, en fait, et ça... ces expériences-là, et du coup de photographe, et après bah, plus pour des ONG, m'ont fait vivre dans des pays. J'ai vécu 2 ans en Haïti aussi. Et ça fait entièrement, enfin, c'est des expériences qui, enfin, mon identité, ce que je suis devenue, il est imprégné, en fait, de ces expériences-là, en fait. Du coup, et de cette découverte, et de s'adapter, en fait, d'être. Enfin, s'adapter, c'est peut-être pas le terme, mais se créer une vie, en fait, je pense partout, en fait, sur Terre, si on est ouvert à ça et se réinventer avec un environnement différent, en fait. Et du coup, ça nous change, en fait, ça nous transforme. Et après, je pense que ce qui a été aussi pour moi un peu une recherche ces dernières années, c'est de me dire, ok, à force de changer, de m'adapter, peut-être qui suis-je. Mais toutes ces expériences, ouais. C'est des petits morceaux de moi, en fait, c'est des petits c'est des regards, et c'est des choses qui me font aussi maintenant voir le monde, observer les gens différemment. Ça change, je sais pas trop, pas de bon mot là.
Léonora, merci à toi.
Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.